Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion des Assises nationales de la pastorale de la santé, nous recevons aujourd'hui le Père Jean-Marie Onfray. Bonjour Père.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint d'un service qu'on appelle Famille et Société au niveau de la Conférence des évêques de France. Vous êtes du diocèse de Tours, prêtre diocésain, mais votre responsabilité, c'est vraiment cette attention que l'Église, avec beaucoup d'autres, on va voir, porte à la question de la souffrance, de l'accompagnement de la maladie, de ceux qui sont les aidants des personnes malades, de la fragilité. Et c'est la raison pour laquelle vous organisez, avec d'autres, mais vous êtes quand même sans doute un des fers de lance de cette organisation, ces Assises nationales de la pastorale de la santé qui se déroulent à Lourdes. Et puis nous recevons Agnès Haas. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes, vous, responsable provincial au niveau de la province de Rennes, de l'aumônerie des hôpitaux.
Oui.
Avec une expérience de terrain, oui. Et puis une expérience de coordination.
Tout à fait.
Vous nous direz tout ça. Et Gérard Lefebvre est parmi nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez du diocèse d'Angers, oui. Et vous participez au Conseil national de la pastorale des personnes handicapées.
C'est ça.
Alors, vous nous direz quelle est votre expérience dans ce monde qui peut faire peur, osons le dire, qui peut même être poussoir pour un certain nombre de gens qui ont peur de la maladie, de la souffrance et du handicap. Et vous, vous nous direz ce que vous y vivez et tout ce qu'on peut y vivre aussi, de très fort. Parce qu'il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, et souvent ce ne sont pas ceux qu'on croit. Alors, nous allons commencer par le commencement. On parlera de ces assises nationales, mais pourquoi les chrétiens, les catholiques, Père Onfray, sont-ils aussi présents dans ces milieux de souffrance, de la maladie, ces lieux où on accueille la fragilité? Il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui sont à l'œuvre. Ça paraît incroyable quand on regarde ça d'un peu loin.
Tout à fait. Alors la première raison, mais c'est vrai et en même temps ça ne peut pas se déterminer, c'est qu'ils ont du cœur. C'est la première raison.
Comme
c'est
d'autres.
Comme d'autres, voilà. Oui. Hein. C'est qu'ils ont du cœur, c'est qu'ils sont sensibles, et c'est difficile de ne pas être sensible à la question des personnes très âgées, à la question des personnes malades ou à la question des personnes handicapées. Mais plus fondamentalement, au-delà de ce cœur individuel et qui est partagé par tout de même une grande partie de la population, hein, fondamentalement, la générosité est là. On a beau dire qu'on est dans un monde individualiste, on est tout de même dans un monde où il y a énormément de générosité, souvent très ponctuelle. On le voit quand il y a des catastrophes, tout d'un coup, tout le monde vit d'une générosité extraordinaire, c'est un peu ponctuel. Bon, c'est vrai que les chrétiens sont invités à plus la vivre dans la durée. Mais j'allais dire plus fondamentalement, ils sont là parce que l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle chrétienne, c'est fondamentalement la bonne nouvelle de Jésus-Christ relevant des malades, des handicapés, des personnes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Et Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour les bien portants mais pour les malades. Donc logiquement, un chrétien n'est pas d'abord pour des bien portants mais pour des malades. De même qu'il l'a dit, je ne suis pas venu pour les justes mais pour les pécheurs. Et puis par ailleurs, il y a cette phrase très forte, presque paradoxale, en Matthieu 25, donc dans ce passage sur le jugement dernier, « J'étais malade ». Et vous m'avez visité. C'est-à-dire, ce n'est pas le malade qui a besoin d'une visite, c'est que si je veux rencontrer le Christ, en vérité, il faut que je le rencontre dans la personne malade. Je signale que juste après j'étais malade et vous m'avez visité, il y a j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Et il se trouve qu'au niveau national, j'accompagne à la fois les questions de santé et de justice. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne fait pas les choses parce que ça nous fait du bien, ou du moins ça nous fait du bien d'avoir bonne conscience. On fait les choses parce que réellement, si on veut rencontrer le Christ, c'est d'abord et prioritairement dans le plus pauvre, dans le plus abîmé de l'existence qu'on va le rencontrer.
Vous, Agnès Haas, pourquoi? Oui. Pourquoi êtes-vous présente à titre personnel, hein?
Voilà. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un appel.
Ah.
Au nom de l'évêque, la responsable diocésaine des aumôneries hospitalières m'a demandé et m'a interpellée en me demandant d'aller visiter des personnes à l'hôpital. Ma première réaction a été dire « j'en suis bien incapable, moi qui ai horreur de l'odeur des hôpitaux ». J'ai fait un stage, je me suis formée et j'y ai pris goût. Et j'ai continué pendant 9 ans, oui, à visiter des personnes en fragilité, en souffrance, à visiter les aidants, les proches, la famille en souffrance et le personnel qu'on rencontre dans les couloirs qui vit aussi des choses difficiles. Être une oreille attentive, écoutante, c'est quelque chose d'extraordinaire auquel je n'aurais jamais pensé si je n'avais pas reçu cette mission confiée par l'évêque.
En fond, ce que vous nous dites, Agnès Haas, c'est que vous avez été de celles, de ceux qui voulaient repousser un peu plus loin la question de la souffrance, de la maladie, aller dans les hôpitaux, malgré votre foi, sans doute.
Oui.
Et avec cette foi.
Oui.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous y avez découvert ?
J'ai découvert une grande richesse dans la vérité de la parole. À l'hôpital, les gens sont dans leur lit, couchés avec des espèces de chemises de nuit informes. Il n'y a plus aucun masque. Ils sont à un moment crucial de leur vie, une crise, que ce soit une opération programmée, que ce soit quelque chose de subi, pas du tout envisagé. Les questions existentielles sont fondamentales. La famille est souvent dans l'émotion. Et avoir une oreille tierce, personne, une oreille attentive, écoutante, pouvoir permettre d'exprimer ces questions de fond sont essentielles. Et j'ai eu la grande joie d'être réceptacle de ces questions, de pouvoir entendre ces questions qui viennent bousculer l'existence où nous sommes dans la performance et dans toujours, toujours plus, toujours mieux. À l'hôpital, tout s'arrête.
Gérard Lefèvre, vous qui êtes proche des personnes handicapées, en souffrance aussi, lorsque vous entendez le père Onfray qui dit « mais au fond, c'est au nom de la foi qu'il faut y aller et le Christ est là, dans cette personne qui souffre, ou cette personne frappée par un handicap », vous dites spontanément « me voici ».
Pas tout à fait.
C'est pas aussi simple que
c'est
ça.
C'est pas aussi simple que ça. Ma présence à la pastorale des personnes handicapées depuis maintenant quelques années est une rencontre et puis oui, certainement un appel également. J'ai pratiqué toute ma carrière professionnelle dans le secteur du handicap, handicap mental, handicap physique, psychique, etc. Je crois que j'ai balayé l'ensemble des expressions de handicap. À ce titre-là, j'ai dû être opéré quelquefois de manière à pouvoir aussi apporter quelques compétences ou quelques connaissances que je pouvais avoir. Ça a été un peu la première rencontre que j'ai eue avec la PPH. On est venu me solliciter pour faire.
PPH, ça veut dire pastorale.
Ça veut dire pastorale des personnes handicapées. Et ça, on pourra revenir peut-être un peu sur l'expression. On m'a proposé de faire une intervention sur la situation des personnes adultes en CAT à l'époque, on disait comme ça. On dit en ESAT maintenant, établissement et services d'aide au travail. Voilà. Ça a été une simple demande de cet ordre-là. Et puis, s'est glissée cette proposition, pourquoi pas, d'intégrer un groupe national concerné par la question de la pastorale des personnes handicapées. J'ai pensé que ça pouvait être le moment d'aller mettre, comment j'allais dire, en cohérence ce que je pouvais faire ou savais faire au plan du handicap, de son accompagnement, de l'accompagnement de la personne en situation de handicap et mes propres convictions religieuses. Voilà. Alors, c'est quelque chose que je vivais en tant que professionnel. Je ne me suis jamais caché de ma foi et de mes engagements, mais j'ai trouvé que c'était peut-être là aussi le moment ou la possibilité ou une grâce peut-être qu'on me proposait de mettre en cohérence ces deux dimensions. Voilà comment je suis arrivé il y a déjà quelques années à la pastorale des personnes handicapées.
Et donc ce que l'on constate là au fond, c'est que ça n'est pas aussi simple que d'écouter la parole du Christ. C'est souvent un chemin qui est assez long pour arriver à comprendre ce que le chrétien peut vivre dans ce monde.
Vous savez, Saint Jacques dit dans son épître, qui est un des premiers textes chrétiens, « Tu me dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres ». C'est-à-dire que dire qu'on a la foi, hein, Jésus dira dans l'Évangile, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui a la vie éternelle, c'est celui qui met en pratique. Hein, et il dira « Celui qui met en pratique, c'est comme ceux qui bâtissent une maison sur le roc ». Il peut y avoir de l'adversité, ça va tenir. C'est vrai que d'écouter la parole de Dieu, j'aurais même dire de prier ou de vivre des rituels chrétiens, ce n'est pas très difficile. Hein, il faut prendre une habitude, mais ce n'est pas très difficile. S'engager dans une démarche chrétienne, alors pas seulement vis-à-vis des malades, des personnes handicapées, s'engager à faire du catéchisme, c'est très difficile, surtout avec les gamins qu'on a maintenant, qui ne sont pas prêts à écouter silencieusement. Toute démarche d'église, à partir du moment où elle est un engagement, est difficile, parce qu'on est dans un monde où c'est difficile d'être engagé dans la durée. Je disais tout à l'heure, il y a de la générosité très ponctuelle, ça fonctionne. Mais s'engager dans la durée, moi je tire mon chapeau, je dis toujours, quand je vois, donc en faisant des formations dans chaque diocèse, 100, 150, 200 personnes, qui sont plus âgés que moi assez souvent, c'est-à-dire qui ont plus de 70 ans, et qui sont disponibles non seulement pour aller voir des gens, donc passer du temps au service ou à l'écoute des autres, et qui sont même disponibles pour se former. Donc là, je dis chapeau. C'est plus exigeant que simplement vivre ponctuellement une assistance à un rite religieux.
Donc la question du pourquoi que nous nous posons là, hein, au début de cette émission, on peut la scinder en deux mots. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Alors, on a dit pour vivre quoi, on l'a un peu compris, mais vous, le prêtre, par exemple.
Alors, c'est intéressant, votre question du pourquoi en pourquoi de mots, parce que je l'ai souvent utilisé à partir du chapitre 9 de Saint Jean. Vous savez, dans le chapitre 9 de Saint Jean, c'est d'un aveugle-né. Et les gens se posent la question, pourquoi il est aveugle-né ? Et à certaines des questions pourquoi, on n'a pas de réponse. Pourquoi mon enfant est mort ? Pourquoi j'ai attrapé telle maladie ? Je n'ai pas toujours des réponses à mes pourquoi. Par contre, la question du pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire de cette réalité ? Et Jésus dira, c'est pour que soient révélées les merveilles de Dieu. Et les merveilles de Dieu, dans l'Évangile, c'est que ceux qui ne voient pas vont voir, et ceux qui prétendent voir sont aveugles à ce qui se passe. Et il dira, les vrais aveugles ne sont pas ceux qu'on croit. Et c'est vrai que nous découvrons, au milieu des gens handicapés ou des gens malades, et on le reconnaît tous, qu'on reçoit énormément, parce qu'ils ont bien plus de vitalité en eux que parfois des gens qui n'ont pas de pépins de santé, mais qui sont dans une espèce de jouissance banale de l'existence. Donc c'est vrai que le pourquoi, moi j'aurais envie de dire, et l'expérience me le montre, c'est pour recevoir de la vie. Parce qu'on n'y va pas pour donner, et tous les gens qui visitent disent « je pensais apporter et j'ai découvert que j'ai reçu bien plus ».
Vous confirmez, Agnès Haas ?
Tout à fait. Et je pense que quelque chose qui est très fort dans cette expérience, c'est de le vivre en équipe. Vous avez dit tout à l'heure que c'était quelque chose de difficile. Jean-Marie l'a confirmé. Effectivement, c'est difficile, mais ce n'est pas porté seul. C'est porté en équipe. Donc, quand on va auprès de personnes en souffrance, on peut vivre des choses qui sont lourdes à entendre. Mais ça ne reste pas que ce n'est pas que pour nous. On peut le partager avec les autres et c'est essentiel.
Et puis j'imagine que c'est aussi source de joie. Enfin, Gérard Lefebvre, vous avez dû faire des rencontres exceptionnelles dans votre parcours.
Je ne me suis jamais rendu insensible à ce que je pouvais vivre dans ma carrière professionnelle. Et les derniers temps, avant d'être directeur d'association, je dirigeais des établissements qui accueillaient des enfants très jeunes. Et j'ai toujours en mémoire ce qui se vivait entre ces familles qui venaient avec des enfants qui pouvaient avoir 3 ans. Qui était déjà porteur d'un handicap très lourd, et ce que ces rencontres pouvaient créer dans le partage, dans la rencontre avec ces familles qui n'attendent pas obligatoirement un miracle dans ce qu'on peut faire, nous les professionnels, mais un accompagnement, un partage, un compagnonnage, une aide, un soutien par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre de difficile.
Je voudrais ajouter que dans le pourquoi, c'est que souvent on met dans le pourquoi faire. C'est-à-dire qu'on est toujours obnubilé sur comment on peut agir. Et j'entends souvent des gens dire « Mais qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ont perdu un enfant ? Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui n'ont plus envie de vivre parce que ça souffre trop ?» On est toujours dans l'impression qu'on va faire. L'essentiel de notre présence, aussi bien auprès des malades, des personnes âgées que des personnes handicapées, c'est une présence. On va pour être là. Parce que ces gens-là, fondamentalement, font l'expérience d'une exclusion. J'oserais presque dire d'une excommunication. Alors, ce n'est pas une décision. Quand vous êtes malade, comme disait une philosophe qui était devenue malade, Claire Marin, vous êtes hors-jeu. Très rapidement, les gens ne viennent plus vous voir. Ou ils font signe de loin. Quand vous êtes très vieux, combien vous avez de personnes âgées qui ont pratiqué dans leur paroisse, qui ne peuvent plus aller jusqu'à l'église et dont plus personne ne se soucie ? Combien de personnes handicapées et de familles de personnes handicapées sentent que personne ne vient les voir? J'avais des amis comme ça qui avaient un enfant profondément handicapé qui me disaient, même dans la famille, nos frères et sœurs, les oncles, etc., ne viennent plus parce qu'ils sont mal à l'aise devant le handicap. Donc la première démarche, je crois, le pourquoi, c'est de se rendre présent, d'être là et d'écouter. C'est-à-dire que notre présence est toujours fondamentalement une présence silencieuse. Le médecin, il vient pour faire quelque chose. L'infirmière, elle vient pour faire quelque chose. Comme le plombier. Quand j'appelle le plombier, il ne vient pas pour m'écouter, il vient pour agir. Notre première mission, je crois, dans toutes ces dimensions, c'est d'abord d'être là, c'est-à-dire de ne pas fuir, d'être là parfois dans le silence, qui est parfois lourd, parce qu'on peut être là avec des gens qui sont mutiques, qui ne parleront jamais, mais qui s'exprimeront, qu'ils apprécient notre présence, d'être là et d'écouter, et même d'écouter le silence.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, Et puis, juste après la pause, nous poserons la question « Comment être là, justement ?» C'est une question de comportement, hein, parce qu'on est mal à l'aise, on ne sait pas faire, on est gauche. On agit mal, parfois, même en étant simplement là. Et vous nous direz si vous, vous pouvez nous préconiser, nous expliquer comment on peut avancer sur ces questions. Juste après la pause, donc, nous restons en compagnie du père Jean-Marie Onfray, d'Agnès Haas et de Gérard Lefebvre. À tout de suite. À l'occasion des Assises nationales de la pastorale de la santé, qui se déroulent à Lourdes, nous recevons le directeur adjoint au niveau national du service famille et société, le père Jean-Marie Onfray, qui s'occupe en particulier des questions de santé et des questions de justice. Alors, pour faire simple, santé, père Onfray, c'est tout ce que vous vivez là avec les aumôniers, avec ceux qui sont les visiteurs de malades, avec les personnes qui, au nom de leur foi et envoyées par l'Église, sont en proximité de la souffrance, de la fragilité. Et puis les questions de justice, c'est l'aumônerie des prisons, hein, en gros, c'est ça ?
En gros, c'est l'aumônerie des prisons.
Bon, c'est pas la question d'aujourd'hui,
mais... C'est là aussi une présence. C'est une présence à des gens qui, là aussi, sont exclus. Alors on voit plus facilement l'exclusion des prisonniers que l'exclusion des malades, des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Nous sommes aussi en compagnie de Agnès Haas, qui nous vient du diocèse de Rennes et qui est responsable provinciale des aumôneries d'hôpitaux de la province de Rennes.
Oui.
Et également Gérard Lefebvre, qui nous vient du diocèse d'Angers et qui assume une responsabilité au sein du Conseil national de la pastorale des personnes handicapées. Et vous avez été appelé là parce que vous avez professionnellement un parcours, une carrière, justement dans des établissements qui accueillent des personnes handicapées et frappées par des handicaps parfois très lourds. Alors, nous en étions, avant la pause, à nous poser de la question du pourquoi. Pourquoi les chrétiens sont là? Pourquoi, aussi en deux mots, pourquoi faire? Pourquoi vivre? Et on en arrive à cette question, le comment. Comment être là avec pertinence? Parce qu'on est gauche, maladroit, on se comporte parfois pas bien, avec condescendance, les aidants, les aider, enfin tout ça. Bref, on sent bien qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis quand même, quand on va dans des milieux de fragilité, père Onfray.
Oui, il y a deux solutions. Soit la solution évangélique, hein, c'est-à-dire des gens viennent vers nous.
Oui.
C'est-à-dire c'est la plus facile. Hein. On voit dans l'évangile des gens qui viennent vers Jésus, qui disent « tu peux m'aider », ou qui viennent vers Jésus et Jésus dit « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ça nous arrive, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça m'était arrivé une fois où j'étais vicaire, quand j'étais vicaire général de mon diocèse, dans un cocktail, une femme, la coupe de champagne à la main, tout doucement s'est mise à me parler d'elle sur des choses très personnelles. On s'est un peu mis à l'écart tout doucement et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle vivait quelque chose de très fort. C'est-à-dire que même dans un cocktail officiel, tout d'un coup, on peut en venir à ce que des gens abordent des choses très profondes. Tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que je peux passer du cocktail à l'écoute ? C'est la même chose en famille. En famille, on blague, et puis tout d'un coup, quelqu'un dit une parole un peu forte. Est-ce que je suis capable de, tout d'un coup, arrêter de rire ou arrêter pour être attentif à cette situation ? Donc, vous voyez, ça, c'est la situation de Jésus. Donc, elle est assez facile. C'est les gens qui viennent vers nous. La situation plus compliquée, c'est quand on va vers. Alors, on est facilité à l'hôpital, puisqu'il y a la loi de 1905 qui dit que, obligatoirement, on doit respecter la liberté religieuse et les aumôneries en leur place. Normalement, on ne va voir que les gens qui souhaitent qu'on vienne les voir. On est dans une situation qui est assez bonne en France, et c'est vrai que beaucoup de responsables de soins disent « Je sais ce que vous vivez, je sais comment vous le vivez, vous pouvez frapper aux portes. » Et c'est là que commence le problème. C'est que je frappe à une porte « Bonjour, je suis du service d'aumônerie, et je ne sais pas si... »
Là, c'est vous, Agnès.
Voilà. Je ne sais pas si l'autre va me foutre à la porte. Vous voyez. Et donc, quelquefois, il me dit « Je ne veux pas de vous », mais ça, pour 36 raisons. Et quelquefois, il va me dire « Ah, c'est gentil ». Et là, tout commence et je ne sais rien de ce qui commence.
Oui.
Puisque c'est l'aventure. Mais je peux céder la parole à
Agnès. Ah oui, Agnès Haas.
Tout
vous,
à fait. Et la première fois où nous frappons à une porte, je peux vous dire que le cœur bat.
Ah oui.
Nous arrivons les mains vides. Nous ne savons même pas, et c'est une chance, si dans le lit, nous trouverons un homme ou une femme. La personne ne sait rien sur moi. Pourquoi moi, je pourrais savoir quelque chose sur elle ? Donc on passe au niveau du personnel soignant, demandant qui nous pouvons aller voir, qui nous ne devons pas aller voir parce que c'est pas favorable, le temps n'est pas favorable. Et après ça, les gens nous disent, le personnel nous dit, allez donc dans telle chambre ou dans telle chambre. Mais on ne sait pas forcément, alors quelquefois on le sait, quelquefois on ne le sait pas. Et moi j'aime beaucoup arriver ne sachant rien. La personne, elle ne sait même pas que je vais venir la voir. Pourquoi, de quel droit, j'aurais le droit de savoir qu'elle a telle pathologie, qu'elle est accompagnée par telle personne de sa famille ? Je ne sais rien. J'arrive, je me présente au nom du service de l'équipe de l'aumônerie, et j'insiste toujours sur le nom de l'équipe de l'aumônerie catholique. Ça fait écho ou ça ne fait pas écho. Quelquefois, c'est du chinois, donc on traduit dans le langage plus courant, en leur disant, ben voilà, je viens proposer un temps avec vous. Souhaitez-vous qu'on nous parlions, que nous discutions. Quelquefois, ils nous disent non. Mais en fait, en même temps qu'ils disent non, ils commencent à nous raconter leur malheur. Et l'affaire est partie. Et j'aime beaucoup aussi me mettre à hauteur du regard. Le regard est essentiel, l'attitude est essentielle pour permettre à l'autre de se dire en toute confiance et non pas être penché au-dessus du lit du malade. Comme on m'a dit une fois en formation, attention, ne te penche pas trop, tu risques de tomber sur. Ça m'a marqué et je retransmets souvent ça au niveau des formations en disant, attention, nous sommes d'homme à homme, d'égal à égal. Moi, je trimballe mes casseroles qui sont sans doute plus cachées, moins visibles. L'autre trimballe ses casseroles dans son lit, mais nous sommes tous frères.
Oui, donc c'est important d'être vraiment au niveau du regard de l'autre. Et ça n'est pas qu'une attitude physique, c'est aussi une démarche intérieure, oui, et profonde.
Ah oui,
qui va jouer très fortement dans le monde du handicap. Parce que bien des handicapés sont justement plus bas. C'est-à-dire qu'ils sont dans des fauteuils, ils sont dans une situation entre guillemets d'infériorité. Et donc comment est-ce que je vais me mettre à leur niveau, vous voyez, dans le bon sens du terme, pour ne pas tout d'un coup être dans l'attitude de celui qui est supérieur à. Des aveugles, par exemple, m'ont dit que les gens parlent au chien et oublient de parler à l'aveugle.
Gérard Lefebvre, vous qui donc avez cette expérience d'avoir accueilli beaucoup de familles et de personnes ayant un handicap, dans les structures notamment que vous avez dirigées, parfois on est très maladroit quand même.
Certainement. Ouais. Je pense que c'est une des problématiques à mettre en avant et à travailler dans le cadre de la pastorale des personnes handicapées. Oui. Mais ce que disait le Père Jean-Marie est tout à fait exact. Et ce qui nous paraît fondamental aujourd'hui, c'est bien de considérer d'abord la personne avant le handicap. Ça paraît une évidence, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment de considérer qu'on a déjà avec soi, en face de soi, la personne que l'on rencontre, que l'on accompagne, c'est d'abord une personne qui vit en situation de handicap, qui est vivante avec un handicap. Et c'est cette prise de position très, très forte, elle ne vient pas là comme ça, c'est aussi l'évolution de notre société. La pastorale des personnes handicapées est très attachée à respecter et à suivre et à s'appuyer sur toutes les évolutions des lois en France qui permettent aussi ce regard nouveau, ce regard différent. Et je pense en particulier à la loi de 2005, mais il y en a bien d'autres, parce que ma carrière professionnelle fait que j'ai connu la mise en œuvre des lois de 1974, etc. Mais la loi de 2005, qui est la première à avoir défini ce qu'était le handicap.
On ne va pas entrer là maintenant dans un grand débat qui traverse notre société concernant la question de la dignité humaine, etc. Mais tout de même, vous devez vous être interpellé sur le terrain, sur suis-je digne de continuer à vivre, moi qui suis complètement délabré ?
Tout à fait. J'allais dire, le débat, il est assez simple. D'un côté, vous avez ceux qui pensent que la dignité tient au paraître, à l'avoir. Donc je cherche à paraître digne, j'ai ou je n'ai pas la dignité. Ça, c'est la première catégorie. Par exemple, les gens qui se battent pour l'euthanasie, dans le cadre d'une association comme l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, disent qu'il y a des moments où on perd sa dignité. Alors pour eux, ils disent, c'est par exemple quand on a perdu la tête, etc. Bon. Soit vous croyez que la dignité est dans le paraître et avec le verbe avoir, soit vous pensez que la dignité est dans l'être, quel qu'il soit.
Donc c'est consubstantiel à l'être.
Intrinsèque, voilà. Intrinsèque. Que c'est intrinsèque à l'être et donc qu'il y a une dignité dès la conception, d'où les positions de l'Église par rapport à l'avortement, etc. Il y a une dignité de la personne dès la conception et il y a une dignité de la personne jusqu'à la mort naturelle. Mais j'ajoute, il y a une dignité de la personne qui, en prison, a violé et assassiné 3 personnes. Elle a la même
c'est
dignité.
C'est dur ce que vous dites.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que c'est facile de croire à la dignité de la personne malade. Certains l'oublient, mais c'est simple à croire. Tandis que de croire que la dignité est intrinsèque chez tout le monde y compris chez le violeur et l'assassin. C'est-à-dire que je ne justifie pas ce qu'ils vivent. De même, quelqu'un qui a un cancer, je ne veux pas justifier le cancer. Mais je vois toujours ce que disait Gérard. Je vois la personne à travers le handicap. Je vois la personne à travers le cancer ou l'Alzheimer. C'est pas facile pour les personnes Alzheimer de voir la personne. Hein. Je vois la personne chez la personne très âgée et je vois la personne chez le violeur ou l'assassin. C'est-à-dire que je suis toujours dans le respect de l'autre au-delà de ce qu'il croit. Et parfois même, nous croyons plus en la dignité de l'autre que l'autre lui-même. Vous avez des gens, pas seulement dans prison, mais des gens qui disent « je suis plus digne de rien ». Vous voyez, beaucoup de personnes âgées pensent que puisqu'elles ne servent plus à rien, il n'y a plus de raison de vivre. Et beaucoup de personnes âgées voudraient mourir, etc. Et qu'une des raisons de notre présence silencieuse, c'est de leur redonner cette dignité auquel parfois elles ne croient même plus.
Dans la dernière partie de cette émission, nous allons essayer de regarder d'un peu plus près comment l'Église est présente à toutes ces réalités, comment elle s'est organisée hein, au fil du temps. Et peut-être y a-t-il aussi des changements en cours, des réformes nécessaires. Alors, par exemple, Agnès Haas, vous êtes responsable provincial des aumôneries d'hôpitaux de la province de Rennes. Oui. Alors là, il y a plein de mots. Alors, au fond, vous faites quoi ?
Alors déjà, parlons de la province de Rennes. La province de Rennes regroupe les 4 diocèses bretons et les 5 diocèses Pays de la Loire. Donc ça veut dire que je me retrouve assez régulièrement avec les responsables diocésains des aumôneries hospitalières de ces 9 diocèses.
Et ensemble, c'est beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde là.
Eh bien, il y a un responsable diocésain par diocèse. D'accord. Donc ça fait 9 personnes. Oui. Plus moi, ça fait 10. Et ensemble, nous essayons de travailler sur des questions qui sont communes aux aumôneries hospitalières, que ce soit dans les Côtes-d'Armor ou en Vendée, pour le Nord-Sud, ou l'Ouest-Est, Quimper ou Le Mans. Les questions sont assez similaires. Et c'est extrêmement important de pouvoir prendre le temps de la mise à l'écart de son diocèse, de ses difficultés.
Pour prendre du recul.
Pour prendre du recul et partager avec ses compères, avec les personnes qui ont les mêmes responsabilités, des questions communes. Puisque dans chaque diocèse, il y a un responsable diocésain des aumôneries hospitalières, comme il y a un responsable diocésain pour accompagner la pastorale des personnes handicapées et un responsable diocésain pour accompagner les personnes âgées.
Et après, il y a les aumôniers, donc des gens qui sont sur le terrain, voilà. Qui ne sont pas forcément des prêtres.
Quasiment jamais.
Quasiment jamais.
Que des laïcs.
Que des laïcs.
Baptisés, envoyés en mission, par délégation, par les responsables diocésains.
Ce que décrit Agnès Haas, on peut le reproduire sur toutes les régions,
Peu
partout en France.
C'est-à-dire que tout ça est une évolution. Hein. Dans le temps, chacun faisait ses affaires dans son coin. Et encore actuellement, il y a certains curés qui font leurs affaires dans leur coin. Hein. On essaie de faire toucher du doigt, depuis le Concile, la réalité du diocèse, en disant qu'il faut travailler en diocèse. Et donc, on a des responsables diocésains. Alors, on a partout ce qu'on appelle des gens qui travaillent en freelance, des gens qui sont dans leur coin, qui font leur petite affaire. Bon, c'est vrai qu'on essaie de faire que les gens travaillent ensemble au niveau d'un diocèse parce qu'on a à s'apporter mutuellement. On vit des choses passionnant qu'il faut partager, on vit des choses difficiles qu'il faut partager. Donc ça, c'est la réalité diocésaine. Et donc, il y a dans chaque diocèse ses responsables diocésains. Ils vivent un travail, comme vient de le dire Agnès, au niveau des provinces. Alors, il y a des provinces très structurées, des provinces moins structurées. Hein. Et au niveau national, nous avons un conseil des aumôneries des hôpitaux, dans lequel participe Agnès, avec un certain nombre de délégués de provinces. Nous avons un conseil de la pastorale des personnes handicapées avec plusieurs représentants des provinces. Nous avons un conseil de la pastorale santé avec plusieurs représentants des provinces. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de travail diocésain, il y a un enjeu de travail en province, tout ça pour... Ce n'est pas une usine à gaz, hein, c'est pour travailler ensemble, pour s'épauler, pour faire église. C'est ça le faire église. Hein. On fait nos petits synodes ensemble, quoi. Et puis travailler ensemble nationalement, et c'est une des raisons de notre présence à Lourdes, où là, il y a les représentants de... J'allais dire tous les diocèses. Il y en a 89 représentés sur 95. Donc c'est intéressant, mais c'est exceptionnel cette rencontre. Hein. Donc ça n'a pas lieu tous les ans, et heureusement. Donc, mais c'est exceptionnel parce que c'est important qu'on puisse faire le point et donner de nouvelles orientations.
Alors justement, quels sont vraiment les points sur lesquels il faut bouger, changer, faire évoluer ? Il y a des lignes forces là-dessus ?
Alors il y a plusieurs lignes. Hein. Pardon, je garde la parole. Hein, oui, mais c'est un peu ma responsabilité.
Hein. Bien sûr.
La première ligne, on l'a travaillée hier, c'est de sans cesse se souvenir qu'on n'est en fonction que parce qu'on a été missionné et envoyé. On l'a entendu tout à l'heure. Hein.
On n'est pas propriétaire.
Personne n'est propriétaire et on n'annonce pas Jésus-Christ de son propre chef. Dans l'Église catholique, l'annonce de Jésus-Christ a toujours à voir avec l'Église diocésaine et avec son pasteur. Donc c'est toujours directement l'évêque ou indirectement. L'évêque peut confier une part de la transmission à un responsable diocésain. Mais in fine, c'est toujours l'évêque qui envoie en mission, puisque c'est lui le pasteur. Quand on parle de pastoral, ça renvoie toujours à l'unique pasteur, qui est le Christ, mais qui est l'évêque dans son diocèse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il faut se le redire sans cesse, parce que très vite, un peu quand on a l'habitude, on finit par faire les choses à sa manière. Et c'est comme ça qu'avec notre voisin, on ne fait pas la même chose et qu'on oublie d'en parler. Enfin, très vite, et je vous dis, c'est la même chose pour les curés. Hein. Tout le monde travaille un peu dans son coin s'il n'y a pas une synergie diocésaine. Et la dimension nationale, ben, c'est ce que viennent de vivre nos pères évêques dans l'Assemblée plénière. C'est qu'il est bon, par moment, de se dire on n'est pas chacun dans son diocèse, mais on a à travailler ensemble. L'autre dimension sur laquelle on travaille aujourd'hui, donc le deuxième jour de nos assises, c'est le fait qu'on vit une profonde mutation dans une très grande valorisation du domicile. C'est-à-dire, vu les coûts d'hospitalisation, vu aussi l'évolution de la société, c'est-à-dire tout le monde préfère être à domicile plutôt que dans un établissement. Vous voyez, peu de gens ont envie d'aller dans un EHPAD, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on y va le plus tard possible parce que tout le monde préfère rester chez soi. Le problème, c'est que si dans les établissements, on a des possibilités structurelles d'aller visiter, comment allons-nous visiter à domicile? Il faut que les gens nous fassent appel. Et ça, c'est une réalité toute nouvelle.
Oui.
Et la réalité de domicile, et c'est aussi une réalité qui est nouvelle, pose la question pour les proches, conjoints, enfants, parents, qui deviennent aussi des aidants, c'est-à-dire qui deviennent des soignants. Et on a des gens qui sont profondément perturbés, j'allais dire esquintés spirituellement, psychologiquement, parce que trop, c'est trop. Quand vous avez à la fois à être le conjoint et le soignant de quelqu'un qui perd la tête, ça peut être extrêmement déroutant. Et donc, une des grandes questions pour l'Église aujourd'hui, c'est comment nous allons être attentifs non seulement aux malades, aux personnes handicapées, aux très vieux, mais comment on va être aussi attentifs aux aidants proches, c'est-à-dire à ceux qui vivent avec. Et on a eu des témoignages bouleversants de gens qui ont eu à vivre des situations de fin de vie dans ce cas-là. Il faut absolument qu'en Église, on entende ça, parce que souvent, ces gens qui sont avec leur conjoint ou avec leurs vieux parents, personne n'en parle. Et ces gens-là ne mettent pas une pancarte devant leur immeuble. Hein. Et parfois même dans la famille, quand un enfant s'occupe de sa vieille maman, ses frères et sœurs qui sont à Carcassonne ou à Strasbourg sont bien contents parce qu'ils sont débarrassés du problème. Et parfois, ça crée des grosses tensions entre frères et sœurs parce qu'il y en a un qui est impliqué dans l'accompagnement et dans tous les soucis, et les autres qui viennent une fois tous les deux mois pour passer quelques heures charmantes. Hein. Donc on a là quelque chose qui réellement aujourd'hui doit préoccuper l'Église et donc doit nous préoccuper.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Père Jean-Marie Onfray, directeur national adjoint du service Famille et Société en charge des questions pour la CEF, Conférence des évêques de France. De santé et de justice. Merci à vous, Agnès Haas, responsable provinciale pour la province de Rennes des aumôneries d'hôpitaux, et Gérard Lefebvre, qui lui est membre du Conseil national de la pastorale des personnes handicapées. Et on espère que ces grandes questions, vous viendrez nous en parler de nouveau sur cette antenne. Au revoir et puis bon vent pour ces assises nationales de la pastorale de la santé qui se déroulent à Lourdes.
Merci pour votre accueil.